Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nin Nartri. Aujourd'hui, je vais assumer et critiquer le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». De Thomas d'Hansembourg est un ouvrage de développement personnel centré sur la qualité des relations et l'affirmation de soi. En s'appuyant sur la communication non-violente de Marshall Rosenberg, l'auteur explore un paradoxe frais que vouloir être gentil au sens de complaisant. Éviter le conflit et préserver une bonne image, tout en s'éloignant de ses besoins réels. Cette suradaptation, souvent apprise dans la famille, l'école, le travail ou la culture, peut créer une tension intérieure et une forme de violence indirecte faite de non-dits, de rancœur ou de reproches. Le livre propose un chemin vers davantage d'auto-authenticité, apprendre à se relier à ce qui se passe en soi, reconnaître ses émotions, clarifier ses besoins. Puis, exprimer des demandes claires et négociables. L'édition illustrée vise à rendre ses idées plus accessibles et mémorables, avec un ton pédagogique orienté vers la mise en pratique au quotidien. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la gentillesse de façade est le code de la suradaptation. Le point de départ du livre est une confusion courante entre gentillesse et alignement intérieur. L'auteur décrit comment beaucoup de personnes apprennent à être agréables, serviables, polies et conciliantes, parfois au prix d'un renoncement à leurs limites. Cette suradaptation peut donner une impression de paix, mais elle installe souvent une fracture entre ce que l'on montre et ce que l'on vit. La force de se taire, de minimiser ses ressentis ou d'accepter l'inacceptable, la pression intérieure s'accumule. Elle ressort alors sous forme de tensions relationnelles, de jugements, de ironie, de froideur ou de colère qui surprennent l'entourage. Dans cette perspective, la violence ne commence pas nécessairement par des mots durs, mais par la déconnexion de « avec soi ». Le livre invite à regarder ces mécanismes sans culpabilité, ils sont souvent des stratégies de protection et d'appartenance. L'enjeu devient de sortir du pilotage automatique, d'identifier les moments où on dit oui par peur, et de réapprendre à choisir une posture plus juste, capable de respecter l'autre sans s'abandonner soi-même. Deuxièmement, revenir à soi émotions comme signaux et besoins comme boussole, un thème central est l'apprentissage du langage intérieur. Plutôt que d'analyser uniquement ce que les autres font mal, l'auteur encourage à reconnaître ce qui se passe en soi sensations, émotions, élan, tensions. Dans l'esprit de la communication non-violente, les émotions ne sont pas des preuves contre autrui, mais des indicateurs précieux. Elle signale qu'un besoin important est nourri ou frustré, besoin de respect, de clarté, de considération, de repos, de sécurité, de coopération. Cette approche aide à sortir d'une logique de blâme. Au lieu de conclure que l'autre est insupportable ou injuste, on peut comprendre ce que l'on cherche à protéger ou à obtenir. Le livre met l'accent sur la responsabilité personnelle, reconnaître ses besoins ne signifie pas exiger. Mais se donner le droit de les nommer et de chercher des stratégies pour les satisfaire. Ce déplacement de l'accusation vers l'écoute intérieure constitue un levier de pacification, car il réduit la charge agressive des échanges et rend possible une parole plus claire, plus simple et plus humaine. Troisièmement, observer sans juger transformer les reproches en faits partageables. L'auteur insiste sur un outil pratique de la communication non-violente, distinguer l'observation du jugement. Dans de nombreuses disputes, les phrases commencent par des étiquettes ou des interprétations « tu es égoïste, tu ne respectes rien, tu t'en fiches ». Or, ces formulations, même si elles expriment une souffrance réelle, déclenchent presque automatiquement la défense, la contre-attaque ou le retrait. Le livre propose de revenir à des faits concrets, datas, descriptifs, que l'autre peut reconnaître, mais même SL en tire pas la même conclusion. Cette rigueur, elle n'est pas un exercice scolaire, mais une manière de créer un terrain commun, quand la conversation s'appuie sur des observations plutôt que sur des verdicts. Il devient plus facile d'exprimer ensuite ce que l'on ressent et ce dont on a besoin, sans humilier ni écraser. Cette discipline du langage favorise des échanges plus efficaces, notamment dans les contextes professionnels ou familiaux où les tensions se répètent. Elle aide aussi à repérer ses propres automatismes quand je juge, c'est souvent que je suis en insécurité ou en manque. Le livre apprend ainsi à ralentir avant de parler, pour éviter d'ajouter de la violence à la douleur. Quatrièmement, exprimer une demande négociable à s'affirmer sans dominer. Une contribution importante du livre est de montrer la différence entre demander et exiger. Beaucoup de personnes oscillent entre deux extrêmes se taire pour rester aimé ou exploser quand la limite est dépassée. La communication non-violente propose une troisième voie, formuler une demande précise, réalisable et ouverte à la discussion. L'auteur encourage à remplacer les reproches généraux par des formulations qui indiquent clairement ce qui aiderait ici et maintenant. Cette clarté est une forme de respect, respect pour soi, car on ose se positionner, et respect pour l'autre, car on lui donne une information utilisable plutôt qu'un process. La notion de négociable est déterminante. Une demande authentique accepte l'idée que l'autre peut dire non. Et elle ouvre alors un espace pour chercher ensemble une autre stratégie qui répond aux besoins des deux côtés. Le livre relie cette posture à l'affirmation de soi. Dire non peut être une manière de dire oui à un besoin profond. et dire oui peut rester un choix libre plutôt qu'une obligation. En pratique, cette approche peut réduire la passivité agressive, renforcer la coopération et rendre les relations plus fiables. En dernier lieu, pacification intérieure et entraînement quotidien à l'authenticité, le livre ne présente pas la transformation relationnelle comme un simple changement de phrase, mais comme un travail de conscience. L'auteur souligne que l'authenticité demande de la présence, sentir ce qui se passe, reconnaître sa vulnérabilité et accepter que l'inconfort fasse partie du processus. L'habitude d'être gentil pour éviter les vagues peut sembler plus facile à court terme, mais elle nourrit souvent une fatigue psychique et une distance émotionnelle. A l'inverse, s'exprimer de manière plus vraie requiert un entraînement régulier. Dans cette logique, de petits rituels de recentrage peuvent aider à s'arrêter quelques minutes. Respirer, identifier son état intérieur, repérer le besoin dominant, puis choisir une action cohérente. L'objectif n'est pas de devenir parfait en communication, mais de réduire progressivement l'écart entre ce que l'on vit et ce que l'on montre. Cette pacification intérieure soutient aussi l'empathie. Plus on se comprend, plus on peut écouter l'autre sans se perdre. Le livre propose ainsi un chemin progressif, applicable dans la vie de couple, la parentalité, le travail en équipe, ou toute situation où on doit rester en lien sans se renier. En conclusion, ce livre s'adresse à toute personne qui se reconnaît dans le rôle du gentil sel ou celui qui évite les tensions, dit « oui trop vite ». C'était pour préserver l'harmonie, puis se sent envahi, frustré ou incompris. Il parlera aussi aux lecteurs qui veulent améliorer leur communication en couple, en famille, au travail ou dans des fonctions d'accompagnement, d'enseignement et de management. Le bénéfice principal est double. Sur le plan intérieur, il aide à remettre de la clarté à la haut, il y avait du flou, reconnaître ses émotions, identifier ses besoins, assumer sa responsabilité et poser des limites. Sur le plan relationnel, il propose une méthode pour remplacer les reproches et les jeux de pouvoir par des échanges plus simples, plus respectueux et plus efficaces. Dans le paysage du développement personnel, l'ouvrage se distingue par son ancrage dans la communication non violente, qui offre une structure pratique plutôt qu'une injonction vague à être authentique. Il ne s'agit pas de n'abandonner la bienveillance, mais de la rendre vraie, c'est-à-dire compatible avec le respect de soi. En ce sens, le livre invite à une maturité relationnelle, à apprendre à rester en lien sans se trahir et à se respecter sans se couper des autres. Si vous souhaitez soutenir Thomas Dansembourg, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.